BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
11h passées de 3 minutes. On est un peu en retard et on s'en excuse tout de suite. C'est toute l'actu éco avec Faiza Younsi.
BFM Business. L'info éco.
Après les syndicats, c'est au tour des organisations patronales d'être reçues à Matignon, à commencer par le MEDEF et la CPME, qui vont s'entretenir avec la Première Ministre cet après-midi. Au menu, la suite du quinquennat, l'économie du pays, l'emploi des seniors. Pour Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, il est temps pour les organisations patronales de dévoiler leurs propositions sur des dossiers comme la revalorisation des salaires. C'est ce qu'il a dit ce matin au micro de RMC.
Le patronat qui d'ailleurs sur la question salariale, sur la question d'évolution du travail, n'est pas exempt d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour l'instant, ils sont un peu planqués pendant la période des retraites. Maintenant, il faut qu'ils sortent du bois. Ils proposent quoi sur les évolutions salariales? Ils proposent quoi sur la reconnaissance du travail, sur la négociation obligatoire de l'organisation du travail dans les entreprises par exemple? Il va falloir qu'ils fassent un peu leur part de leur part d'efforts.
Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, et le projet de loi sur le partage de la valeur sera présenté en Conseil des ministres ce mercredi. Il doit permettre de transposer l'accord qui a été trouvé entre syndicats et patronat. Également dans l'actualité, ce chiffre, 413 milliards d'euros sur 7 ans, c'est un budget historique pour les armées qui est débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 2 semaines de discussion pour confirmer le projet de loi de programmation militaire. Il permettrait d'atteindre l'objectif de l'OTAN, à savoir 2% du PIB pour les dépenses militaires. De l'actualité internationale, le dossier brûlant de la dette aux États-Unis, Joe Biden et Kevin McCarthy se rencontrent aujourd'hui. Le président et le chef républicain doivent reprendre les négociations sur le relèvement du plafond de la dette. Il reste désormais 10 jours pour trouver un accord et éviter le défaut de paiement des États-Unis. La France fait les yeux doux au constructeur chinois BYD. Selon les échos, le pays est sur les rangs pour accueillir l'usine européenne du numéro 2 mondial des véhicules électriques. BYD prospecte un site qui lui servirait de base pour partir à la conquête du continent. Ce sera certainement l'un des plus gros investissements de ces prochaines années. La France est en concurrence avec l'Espagne et l'Allemagne, entre autres. Ryanair renoue avec les bénéfices. La compagnie irlandaise affiche un profit d'1,43 milliard d'euros pour son exercice annuel décalé à fin mars. Elle est portée par la forte reprise du trafic aérien. Ryanair a d'ailleurs battu son record de nombre de passagers transportés avec plus de 168 millions de personnes accueillies à bord de ses avions. Et on termine avec Instagram sur le point de lancer une application concurrente à Twitter. Selon Bloomberg, la filiale de Meta travaille sur un réseau social similaire qui pourrait être lancé dans les toutes prochaines semaines. Objectif, récupérer les utilisateurs et les annonceurs déçus par Twitter depuis sa reprise en main par Elon Musk.
Merci Faiza. Chaque heure, Faiza Younsi nous lit l'actualité économique et nous tout de suite on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et c'est Thibaut François qui nous accueille chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Bon, on ne sait pas très bien sur quel pied danser là. On hésite, on avait certes ouvert en baisse, on a tenté une remontée mais rien n'y fait.
Oui, on baisse un petit peu sur le CAC, on est à moins 0,11% effectivement sur le CAC 40. Si on traite des gros dividendes qui ont été versés ce matin, on est quand même positif sur l'indice CAC 40, pratiquement 0,20 de hausse, c'est plutôt pas mal. On a en effet un gros coupon qui est tombé sur BNP ce matin, c'est quand même un peu plus de 6,5 de rendement sur l'action. On a Arcelor et Essilor aussi qui ont versé leur dividende ce matin. Donc ça c'est à retraiter par rapport à l'indice CAC 40. Pour l'instant, pas de grosse prise de position, effectivement. On attend toujours toujours un gros suspense sur le plafond de la dette américaine. Décidément, les scénaristes américains sont vraiment les meilleurs du monde. On s'attend encore une prise de décision dans les dernières heures, donc avant le 1er juin. Donc on verra ça dans les prochains jours. Les discussions devraient reprendre d'ici la fin de journée sur les États-Unis.
Quelques dossiers que vous regardez plus précisément?
Bah écoutez, encore cette semaine, encore beaucoup de publications. Hein. C'est la fin pour le premier trimestre. Dans les publications attendues cette semaine, on a Pierre et Vacances qui annonce ses résultats du premier semestre. Ça devrait être encore bon. Le secteur du tourisme est plutôt bien orienté. On attend une hausse possible d'ailleurs des objectifs pour Pierre et Vacances pour la fin d'année. On attend aussi des réservations à date pour la période de cet été. Donc une publication qui devrait être bien accueillie pour sur Pierre et Vacances. On attend aussi la publication d'Aramis Group, qui a plutôt déçu depuis son introduction en bourse. Le cours s'est totalement effondré depuis quelques mois. Par contre, il y a un signal quand même positif, c'est que les dirigeants ont racheté des titres il y a quelques semaines, et depuis on a un rebond assez significatif sur le dossier. Les volumes devraient être nettement supérieurs par rapport à l'année dernière, et donc une reprise, un momentum qui est un peu plus favorable sur Aramis. Donc publication cette semaine, et ça peut être une bonne surprise aussi sur le dossier Aramis.
Merci beaucoup Thibault. Thibault François et Fastea Capital qui nous accompagnait ce matin. Le CAC est en baisse de 0,12%, 7482 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Jean-François Robin et Alexandre Baradez. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Merci d'être au rendez-vous. Jean-François pour Natixis et Alexandre pour IG. Bon, on a toujours cette espèce de petite épée de Damoclès de ce plafond de la dette. Alors, on nous dit un espoir. N'empêche qu'il reste que 88 milliards de dollars à Joe Biden pour terminer le mois. On joue à se faire peur. C'est le retour des grands classiques. Comment est-ce que vous voyez les choses, Jean-François ?
On joue à se faire peur, c'est-à-dire que c'est un événement finalement assez fréquent. Hein. Ça fait maintenant 78 fois qu'on a eu ça, une espèce de plafond de la dette auquel on est confronté. Et à chaque fois, on a fini par se mettre d'accord avec tout le monde en tête en 2011 ce qui s'est passé où les agences de rating ont fini par enlever le triple A de la dette américaine. Et à chaque fois, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc les marchés achètent cette idée qu'à la dernière heure, on se met d'accord et qu'il ne se passe pas grand-chose et qu'il n'y aura pas de défaut durable des États-Unis. Alors là, force est de constater que là, quand même, on s'approche de la date. Janet Yellen, ce week-end, a répété que ça lui semblait très improbable qu'elle passe le 6-7 juin. Nous, on avait calculé que début juin, ça commençait à être chaud. Sachant qu'on, Yellen avait parlé de 88 milliards, mais il faut, dit, au minimum 30 milliards pour fonctionner au day-to-day. Donc on va vite y arriver quand même. Donc la question est celle-ci. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord avant ? Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a une espèce de montée quand même de la dramaturgie avec McCarthy qui claque la porte quelque part vendredi. Que c'est un moment très politique. On a une assemblée, enfin un congrès qui ressemble un peu à l'Assemblée nationale française, je le dis souvent. C'est-à-dire un truc quand même assez... une assemblée...
Difficile à piloter, quoi.
Difficile à piloter et pas très très à la recherche du consensus, on va dire, pour dire les choses comme ça. Et donc très politique. Très polarisé. On rentre dans les élections américaines. Il y a Biden qui s'est découvert, Trump qui veut y retourner. Donc, on sent bien qu'on arrive dans un moment politique. Les élections, c'est l'année prochaine. Donc, attention, c'est peut-être moins facile que d'habitude de se mettre d'accord. Donc, il peut y avoir cette tension-là. Après, s'il y a, est-ce que ça peut être un défaut durable avec le trésor américain qui n'arriverait plus à se financer et que le dollar part à la cave, les obligations américaines ou avec les taux qui explosent à la hausse et les actions qui perdent 20%. Honnêtement, scénario que beaucoup de gens décrivent, il a une probabilité assez limitée. Ouais. Hein.
N'empêche que quand on touche à cette question-là d'un défaut même partiel, d'un petit incident sur la dette américaine, c'est pas tout à fait comme une autre dette, c'est pas tout à fait comme un autre défaut, c'est pas tout à fait comme un autre incident.
Ça oui, peut, bien sûr. Ce sera une répercussion et puis ce sera des gorges chaudes en Chine que je pense pour dire, bien voyez, sûr. Encore une fois, le modèle qui marche pas, etc. Donc il y a un moment très politique, très géopolitique, très important. Après, il y a eu récemment pas mal de défauts, d'échéances sur l'obligataire, sur l'immobilier commercial aux États-Unis. On n'en parle pas beaucoup, c'est peut-être ça le vrai sujet parce que à la fin de la fin, ils vont quand même se mettre d'accord. Et il y aura un refinancement. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que là, il y a eu des sondages ce week-end aux États-Unis. Aucun des deux partis ne sortirait gagnant d'un défaut. Donc, on joue, on fait monter les enchères politiques. Les Républicains veulent montrer un petit peu leur agenda. Ils ont proposé un type de budget avec voilà, une baisse des dépenses qui ne correspond absolument pas à ce qu'ils font une fois qu'ils sont au pouvoir en général. Mais voilà, on a des choses quand même très, très politiques. Mais une fois qu'on aura passé ça, ils vont se mettre d'accord, je pense.
Comment on regarde tout ça chez IG ?
C'est vrai que l'aspect politique, il semble important à ce stade parce qu'effectivement, l'élection approche.
Oui, donc... ça avait commencé par Donald Trump sur CNN qui exhortait ses partisans à aller au défaut.
Oui, mais on voit que les deux gros thèmes qui ressortent, c'est d'un côté, il faut baisser les dépenses, ça c'est le souhait des Républicains, et de l'autre côté, évidemment, les démocrates disent, nous, ok pour baisser les dépenses, mais il faut aussi des ajustements du côté des taxes. Et donc, c'est vraiment d'un affrontement politique pur en prévision de ce qu'il y aura dans quelques trimestres en termes d'élection. D'un point de vue marché, ça durcit quand même les conditions financières. C'est-à-dire qu'on voit que le stress autour de la dette américaine. Les échéances très très courtes, le 1 mois, il s'est approché quasiment des 6% il y a quelques jours. Il est encore à 5,6, 5,7 ce matin. Et même sur les taux, on va dire 2 ans, qui ne sont pas des taux très longs, mais qui sont quand même des taux voilà, qu'on surveille, on était à 3,60 il y a une dizaine de jours. On est remonté à 4,30 là en fin de semaine dernière. Donc ça a pour effet de durcir un peu les conditions financières. On le voit d'ailleurs sur les coûts de crédit, hein, les taux 30 ans hypothécaires américains sont un petit peu redressés ces dernières semaines. Donc, pour la Fed, j'ai envie de dire, si on regarde l'aspect positif, parce que le marché aime bien regarder ça en ce moment, c'est pas mal, parce que ça veut dire que c'est peut-être ça effectivement, qui va faire que la Fed va faire une pause sur les taux dans quelques temps, parce que ce stress sur la dette, plus une inflation qui reste élevée, mais avec des effets lag qui sont très importants, mm-hmm. et plus de stress qui arrive, ça peut faire en sorte que la Fed, probablement même, fasse une pause sur les taux. Mais des conditions financières qui se durcissent. Elles se durcissent au moment où vous avez aussi des signaux macro mondiaux qui ne sont pas extraordinaires. Si on regarde la Chine, par exemple, toutes les dernières statistiques publiées sur les deux derniers mois sont en dessous des attentes. Vous regardez les indices de surprise économique. Alors là, ce qui est marrant, c'est que pour une fois, c'est très très aligné. Indice de surprise économique, vous regardez l'Europe, les États-Unis et la Chine, depuis un mois et demi, deux mois, quasiment toutes les stats sont sous les attentes. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous avez un consensus macro qui est trop optimiste depuis trois mois, au moment où les marchés, en revanche, depuis deux mois, sont plutôt dans une phase de un petit peu de réaccélération. Et selon moi, c'est là qu'il y a quelque chose qui va falloir réconcilier à un moment donné. C'est quelle échéance regarde le marché? Si le marché regarde l'aspect conjoncturel, et l'aspect un peu court terme, pour moi, les hypothèses haussières sont plus vraiment là. On a vu que déjà, ça s'est pas mal ajusté à la hausse parce que la saison de résultats était moins mauvaise qu'attendue. Donc l'aspect, on va dire, résultat d'entreprise a été intégré. L'aspect macro, est-ce qu'on ne peut pas considérer, quand on voit la Chine à ce stade, sur ces stades qui sont régulièrement sous les attentes, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur la consommation et donc un risque pour des guidances qui ont été faites au premier trimestre par rapport au T2, mais sur des bases du premier trimestre? Et moi, il me semble que la reprise en Chine, elle est un peu de ce modèle-là. Ça fait un peu pop premier trimestre, ça s'expose un peu. Et puis ensuite, le momentum n'est pas là, n'est pas figé. Et ce constat-là, il est fait aussi du côté de l'économie allemande. On a vu le ministre de l'économie allemande dire, voilà, on a un premier trimestre qui va être faible, et donc on a une base de réaccélération ensuite qui est plus basse que ce qui était initialement prévu. Et donc, voilà, il me semble que cette macro ne plaide pas, par contre, en faveur d'un rallye qui sera encore de 10-15% sur les indices, hormis un FOMO, mais sur des bases purement macro, je ne vois pas à ce stade pourquoi nous serions beaucoup plus haut et très vite.
Ce qui est intéressant, c'est aussi voir ce qui se passe sur le dollar, parce que la grande question, à chaque fois qu'on a un stress sur les banques américaines, sur l'économie américaine, et là sur la qualité de la dette américaine, on se demande si le roi dollar est mort, si la domination du dollar, parce qu'il y a tout ce sujet en ce moment de savoir est-ce que la Chine est en train de remonter un petit peu en défaveur du dollar, sa monnaie. Alors, en fait, ce qu'on voit quand même, c'est qu'en période de stress comme ça, le dollar s'apprécie, donc c'est un petit peu rigolo. Il n'y a pas quand même non plus un énorme stress. Voilà, c'est à la fois la valeur refuge et à la fois le signe qu'il n'y a pas une énorme inquiétude sur la qualité de la dette et il n'y a pas vraiment d'équivalent à la dette américaine.
Ce que disait Alexandre est intéressant. C'est vrai que quand on voit l'état de l'économie américaine, le durcissement du crédit, et puis qu'on regarde tous les autres qui sont des sujets de préoccupation donc pour les marchés, et qu'on voit tous les autres sujets qui, depuis le début de l'année, ont un peu porté les marchés, et notamment le redémarrage de la Chine, on se dit là, on a les pépins américains, on a notre moteur chinois, on va peut-être pas dire qu'il a calé, mais en tout cas, il est pas aussi... Il respire pas autant qu'on ne l'avait espéré. Ça vous pose question? Quelle lecture vous avez de cette situation chinoise qui déçoit, pour ne pas dire surprend désagréablement?
Alors nous, on avait vraiment ce scénario, on était les plus optimistes du scénario en fin d'année dernière, en disant il y aura un rebond chinois, on voyait 5,5 de croissance, on était les seuls du consensus à prévoir ça. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on le révise un petit peu à la baisse, effectivement, parce que le momentum, est-ce qu'il est si fort que ça? En fait, quand on regarde les chiffres du premier trimestre, donc ils étaient très bons, hein, on est sur un rythme de 4,5 en trimestriel. Hein. Là, le deuxième trimestre qu'on voit dans nos indices de Big Data, c'est plutôt que le T2 va être meilleur encore que le T1. Et après, on voit un ralentissement. Tout ceci dans une croissance très domestique. On voit que c'est les ventes au détail qui font plus 15% encore le mois dernier. Donc ça laisse quand même plutôt penser à une conso chinoise très domestique, très centrée. C'est pas de l'industrie, c'est pas de l'immobilier, c'est pas on produit pas pour le reste du monde. Non, c'est on consomme, etc. C'est un rebond de la consommation interne. Mais quand on voit le T1, T2, ça va être très très compliqué de faire moins bien que 5,5 cette année quand même. Donc on était dans les plus optimistes. Honnêtement, on va faire les 5 de croissance probablement cette année. La vraie question, c'est pour la suite. vite, parce que si c'est une croissance domestique, une fois que les Chinois ont voyagé, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, les voyages, c'est quasiment plus 200% entre régions chinoises. On a 70 millions de voyages qui sont à Hong Kong. On voit les réservations pour la Thaïlande là, tout au long des prochains mois, très très fortes typiquement. Donc ça, c'est vraiment des indices que c'est plutôt leur tête, l'entertainment, le restaurant, le rebond de la conso. Ça, ça dure qu'un temps, surtout en Chine, quoi. Donc c'est pas non plus des choses très durables. Donc la vraie question, c'est plutôt sur l'année prochaine. Nous, on voyait 4,5, c'est plutôt l'année prochaine qu'on commence un petit peu à questionner. Après, sur le reste de ce qu'on disait, ça fait quand même un an qu'on annonce une récession américaine, une courbe des taux qui est inversée, qui normalement annonce une récession. Bon, les derniers chiffres qu'on voit, ils sont un peu décevants, je suis d'accord avec ça. Nous, on est prudents.
Il y a quand même une question du crédit.
Oui, il y a une question du crédit.
Hélène, ça la préoccupe.
Bien sûr. Et puis, on voit bien plein d'indicateurs qui sont là. Maintenant, force est de constater qu'encore en avril, donc début du T2, le taux de chômage, il monte pas, il baisse. Hein. On est à 3,4%. On voit pas une conso dingue. On voit un énorme boom de l'investissement dans le renouvelable aux États-Unis. Hein. L'investissement aux États-Unis, il explose en ce moment. Donc, on a aussi des moteurs de l'économie américaine qui sont pas encore arrêtés. Quoi. Donc, on annonce tous une récession au T2, T3. Ça fait maintenant 4 trimestres qu'on disait c'est le T3 2022. Alors, maintenant, ce sera le T4. Maintenant, ce sera le T1. Maintenant, c'est peut-être le T2, mais il démarre pas si mal que ça. Donc, oui, il y a probablement un gros sujet. Tout s'aligne pour dire qu'il y a un ralentissement à venir aux US. Mais on sous-estime toujours l'économie américaine. Pour l'instant, elle se tient pas si mal. Hein. Oui, il y a une vraie question sur l'immobilier, sur le commercial, sur les conditions de refinancement, sur les banques. Mais il faut garder un petit peu raison. Hein. Il y a eu 4 banques qui ont fait défaut aux États-Unis. Entre 2008 et 2013, 500 banques ont fait défaut.
Oui.
Dans les années 30, 5000 banques. Bah, alors oui, il y a de la consolidation, etc. Mais ça reste pas un énorme événement de crédit pour l'instant. Donc je crois qu'il faut... Voilà, il peut y avoir un ralentissement américain. Il est très très probable vu les chiffres. Est-ce que c'est une grosse récession qui arrive avec ce truc-là qui se rajoute? On continue de penser que c'est pas le cas.
Quelque chose à rajouter sur la Chine ou...
Oui, pas sur la Chine, mais sur l'aspect un peu, effectivement, anticipation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est intellectuellement, qui n'est pas simple à intégrer, c'est que tous les signaux qu'on a sur les indicateurs avancés américains, notamment leur vitesse de ralentissement, sur des track records d'à peu près 40 ans, à chaque fois qu'on a eu ce degré de ralentissement des indicateurs avancés, donc l'indicateur avancé, c'est tout ce qui est ESM, des activités autres, c'est la partie soft en fait, hein, les données soft. Systématiquement, quand on a eu cette vitesse de ralentissement, voire même de passage en air-to-air en négatif, c'était annonciateur avec un track record de 100% de récession. Donc, effectivement, ce qui est aujourd'hui, on ne voit pas de signaux de récession. Vous regardez la Fed d'Atlanta, elle prévoit même au T2. Alors, ça peut très vite réviser, hein, c'est un modèle qui est très volatile. Mais actuellement, on a 2,7 encore de prévision de croissance par la Fed d'Atlanta au T2. Donc, on n'a pas l'impression que ce trimestre-là sera contracté. Et pour autant, moi, quand je regarde la consommation américaine, elle n'est pas inquiétante, mais on a quand même eu 2 mois consécutifs de repli et là, un rebond. Mais le rebond était moins fort que ce que le marché attendait. Et dans les composantes de la consommation, certaines parties montrent qu'il y a quand même une faiblesse, mais qui n'est pas surprenante parce que la Fed recherche ce tassement de la consommation qui était une consommation qui était devenue complètement exponentielle post-Covid et qu'il faut ramener sur le trend qui était le trend, en gros, des 10 années qui ont précédé le Covid. Mais justement, on n'est pas encore venu sur ce trend. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fait, selon les courbes, le chemin qu'il fallait, le chemin arrière sur la partie volume et en montant de vente de détail de ralentissement pour revenir sur un trend acceptable et qui ne soit pas inflationniste en fait. Et donc, moi, je ne vois pas comment ce contexte-là, on pourrait considérer que les ventes de détail ne vont pas encore ralentir dans les mois à venir. Moi, je pense qu'on est encore qu'au début en fait de cette partie de ralentissement. La consommation américaine, c'est 2/3 du PIB. Donc, je pense que là, et même si on dit que la Fed fait une pause sur ses taux, oui, elle va faire une pause, mais avec une fourchette à 5,5-5,25. Oui. Ça reste corrosif pour l'économie américaine, même si elle est résiliente à ce stade, parce que le taux de chômage est faible ou autre. Mais on sait que le chômage, c'est aussi un des indicateurs les plus lags. Donc, c'est plutôt sur la partie effectivement indicateur avancé. Moi, j'ai tendance à regarder. Et ces indicateurs-là semblent quand même indiquer qu'on est devant, au-devant d'une récession. La question, c'est T2, T3 ou T3, T4. Mais, et là, je ne vais pas faire trop long, mais si on regarde historiquement, et là, le track record, il n'est pas simple à analyser, c'est que la dernière récession, enfin la grosse crise financière, la récession, les marchés ont fait le point bas avant la fin de la récession. Si vous regardez par contre la période bulle Internet, la récession c'était 2001, et finalement la récession est englobée dans la baisse des marchés. Les marchés avaient commencé à décrocher 2000-2001, puis la récession, puis les marchés ont encore baissé après que la récession soit terminée, si vous voulez. Donc il n'y a pas de modèle facile à interpréter de dire si on est dans une récession, est-ce qu'on doit d'abord corriger l'aspect donc conjoncturel et seulement après les marchés se reprennent plus durablement, ou est-ce qu'on est parti pour finalement ne pas avoir de récession du tout.
D'accord.
Statistiquement, on est quand même censé en avoir une.
Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début et qu'on attend, qu'on attend. Du coup, qu'est-ce qu'on fait sur nos marchés? Parce que, bon, on est plus... Enfin, on reste quand même à proximité de nos plus hauts historiques. Certains s'interrogent, alors ça c'est sur le CAC, certains s'interrogent sur la viabilité des marchés américains. Et on a quelques chiffres qui commencent à tourner d'une éventuelle grosse consolidation des indices américains. Comment voyez les choses, vous, boursièrement parlant, pour que nos épargnants puissent peut-être ne pas se reprendre une claque comme souvent le grand public, entre guillemets, s'en prend une
Alors là c'est pareil, hein. On va essayer de jouer quelque chose qui est rarement gagnant statistiquement, c'est de se dire que l'Europe fait mieux que les États-Unis. Hein. Mais c'est vrai que quand on regarde les États-Unis, il y a deux choses que je trouve qui doivent inciter à la prudence. On vient de le dire, même trois, hein, en plus de ce qu'il vient de dire. On a cette espèce d'idée quand même que ça doit ralentir à un moment ou à un autre, ça va ralentir aux États-Unis. Donc ça, c'est jamais très favorable. Le deuxième élément que je trouve à regarder de près, c'est les résultats des entreprises, hein, qui font la performance des indices actions. Or, quand on regarde les profits des entreprises américaines, ils sont au plus haut de l'histoire. Jamais on a eu autant de profits des firmes américaines. Pourquoi ? Ça se retrouve un peu en Europe, hein, même beaucoup de maintenant, quasiment très majoritairement en Europe. L'inflation qu'on constate aujourd'hui, c'est les profits.
Bien sûr.
C'est les boîtes qui passent des hausses des prix. C'est la gridflation, comme on dit aux États-Unis. On en profite pour passer des hausses des prix. Et ça marche. On peut gagner en valeur ce qu'on a perdu en volume. La question qu'on peut se poser, c'est si on se dit que le taux de chômage est à 3,4%, qu'on voit la consommation commencer un petit peu à chaoter, il est quand même un petit peu probable que les hausses des prix vont devoir s'ajuster et arrêter de monter. Et donc, les profits des entreprises vont devoir s'ajuster à la baisse. Donc, si on est là-dedans, c'est quand même le plus probable, quand vous avez des profits au plus élevé, un taux de chômage au plus bas, qu'une conso qui commence un petit peu à freiner, c'est quand même assez probable que les profits vont devoir baisser. Ralentissement de la croissance, baisse de la conso, baisse des profits, tout ça, c'est pas bon pour les indices actions américains. Puis, troisième facteur que je vois, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a un dollar qui se tient bien aujourd'hui, mais honnêtement, tout pointe vers un dollar plutôt plus faible contre autre devise, hein. Nous, on voit l'euro contre dollar à 1,15 avant la fin de l'année, parce que la Fed en a fini, ils vont peut-être baisser les taux cette année, alors que la BCE baissera pas les taux avant 2025, et qu'elle a encore deux, peut-être trois hausses des taux devant elle, qui a réduit son bilan beaucoup plus vite que la Fed, blablabla. Il y a plein de choses qui plaident quand même pour un euro plus fort que dollar. Donc quand vous achetez des actions américaines en dollars, qui va peut-être s'affaiblir et sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas excessifs, mais avec des profits intégrés qui, eux, sont appelés à baisser, je serai assez prudent sur les actions américaines.
Oui. Comment vous voyez les choses? Vous nous habituez, vous, souvent à aller chercher comme ça des courbes, des supports, des canaux. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la baisse forte?
Sur la question des marchés américains, c'est vrai qu'on voit par exemple que la hausse des marchés, des gros indices, c'est assez régulier, ça fait régulièrement, donc c'est pas une anomalie en tant que telle, mais on voit quand même que le rallye, ou en tout cas la bonne tenue des marchés américains, c'est qu'en fait, sur une concentration de très grosses valeurs, et on les voit, on les connaît, ces valeurs, finalement, c'est celles qui avaient déjà fait les très grosses tendances sur la décennie précédente, c'est les GAFAM. Vous regardez la puissance des rebonds sur des Apple, des Microsoft ou autre, ça tire les gros indices mécaniquement. Ce qui est un peu plus gênant, c'est qu'on commence à revoir certains comportements, et c'est là que je me pose quand même la question sur la Fed. Je pense qu'il y aura pause, mais quel type de message accompagnera ça? C'est qu'il y a des comportements qui ressemblent un petit peu à des comportements qu'on voyait en 2021. Il faut regarder une boîte comme Nvidia, il y a eu tout l'aspect excessif, exponentiel, crypto, l'envol du titre, qui était ensuite très sévèrement corrigé pour tomber vers les $100, et on a repris quasiment $200 en ligne droite. Donc je veux bien que oui, il y ait désormais le thème intelligence artificielle qui porte les marchés, que ce soit très probablement même un vrai secteur d'avenir. Pour autant, est-ce que ces comportements boursiers, je parle là uniquement de comportements boursiers et de recréation de richesses boursières en aussi peu de temps, est-ce que c'est normal et pas trop rapide? Et moi, je trouve que là, par contre, on va trop vite. Sur du Nvidia, par exemple, et même sur le segment des semi-conducteurs, je pense même que des boîtes comme Apple, qui ont fourni de bons résultats, mais on est quasiment revenu sur les sommets. Il y a des challenges en Chine, il y a de la concurrence aussi, de plus en plus, sur le cloud. On voit en Chine, par exemple, je dis pas que ce qu'on voit en Chine, on le verra aux États-Unis, mais on voit qu'en Chine, ceux qui fournissent l'accès au cloud, les grands groupes chinois, se livrent actuellement une guerre des prix absolument incroyable.
Il y a des j'ai envie de dire une guerre tout court, parce qu'on a vu ce week-end la Chine qui interdit Micron. Alors, c'est pas énorme la Chine pour Micron, c'est 10%, 10, 11% de ses résultats. Je regardais ça ce matin. Mais quand même, on a la Chine qui est en train de mettre des stops sur les semi-conducteurs américains. Donc, ça fait partie des valeurs. C'est le top des progressions. Si vous regardez sur 5 ans ou 15 ans, Nvidia, ça fait partie des top performers. Et donc, c'est aussi des valeurs qui sont très, très soumis à cette guerre commerciale, et ce week-end nous montre encore qu'elle est
loin d'être. Donc ça veut dire qu'il faut être prudent.
Mais c'est sûr qu'il y aurait des motifs, en tout cas, pour que ces rallyes, qui sont vraiment exponentiels, au moins consolident, pas retombent sur les niveaux les plus bas, ça c'est terminé, mais qu'il y ait quand même un peu de consolidation pendant quelques mois.
Merci à tous les deux d'avoir échangé autour de tous ces grands thèmes. Donc, Alexandre Baradez pour IG, Jean-François Robin pour Natixis. À très bientôt. Et puis, une petite info pratique concernant vos impôts. Deux informations pratiques. D'abord, vous n'oubliez pas, si vous faites partie des derniers résistants qui déclarent par papier, c'est d'ici ce soir que vous devez déposer votre déclaration d'impôts. Et puis, le 24, BFM Patrimoine se mobilise pour vous aider à remplir votre déclaration d'impôt. BFM Patrimoine et 90 Minutes Business seront à votre service. Dans un instant, un petit détour technique par les marchés, puis ensuite on continue à vous donner un maximum de conseils.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Allez, on file sur les marchés pour regarder un petit peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs sur cet indice CAC 40, parce que on peut pas dire que ça fourmille d'énergie et d'initiative. C'est André Atouigny qui, depuis Saxo Bank, suit avec attention ce début de séance. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur ce CAC qui, pour le moment, se cherche un petit peu? Certes, on est dans le rouge, mais enfin, c'est pas très décidé.
Non, c'est le calme plein sur le CAC ce matin. Il se passe strictement rien. On va pas se mentir. Le vrai côté positif, c'est que globalement, on a un marché qui est focalisé maintenant, notamment sur la partie action, qui est focalisé vraiment sur ces négociations autour du plafond de la dette américaine. On a eu des échos positifs en fin de semaine dernière. Pendant le week-end, les négociations n'ont pas abouti, avec des échos même plutôt négatifs. Même si on a très peu de doutes sur le fait qu'il y aura une solution qui sera trouvée à terme, mais que cette solution risque d'arriver in extremis en début du mois de juin, a priori. Peut-être même sûrement. Mais donc, du coup, malgré justement cette attente, ce stress des marchés par rapport justement à l'issue de ces négociations, on reste quand même avec un marché plutôt complaisant qui reste sur des niveaux qui sont assez soutenus. On ne s'est pas du tout éloigné des plus hauts. On est au contact des 7500 points. Donc là-dessus, c'est quand même un aspect positif. On a quand même un sujet sur lequel on n'a pas beaucoup de visibilité. On attend des négociations qui sont difficiles. On ne connaît pas encore les compromis qui seront faits par les deux camps, ni à quelle date exactement ces négociations vont aboutir. Et pour autant, on a un marché qui se maintient encore une fois sur des niveaux assez élevés, au contact des 7500 points, au contact des 4200 points sur le S&P. Donc du coup, ça c'est pour le côté positif. Sur le CAC d'ailleurs, on a des niveaux techniques autour des 7460, 7430. C'est des niveaux de support qui peuvent tenir, qui, si jamais ils étaient testés, ne remettraient pas du tout en cause la tendance qui est globalement positive. C'est plutôt même des niveaux d'appui sur des stratégies justement d'achat sur repli qui sont jouables et qu'on peut tenter. Mais voilà, pour le moment, en tout cas ce matin, les volumes sont faibles, l'activité est faible, il n'y a pas vraiment de mouvement sur le marché. On sent qu'il y a quand même une crise passion, en tout cas une certaine attente qui bloque complètement toute prise d'initiative, en attendant justement d'y voir un peu plus clair tout au long de la semaine avec ces négociations qui vont reprendre a priori dès aujourd'hui entre les républicains et les démocrates, et directement même avec l'intervention de Joe Biden. Donc du coup, on va suivre tout au long de la semaine en fil rouge justement ces négociations autour du plafond de la dette américaine. Sur d'autres marchés, on voit qu'il y a peut-être potentiellement un petit peu plus de mouvement, et là aussi des enjeux qui sont assez importants, notamment sur la partie taux devise, où là on a vraiment un marché qui est focalisé sur la Fed, sur les anticipations autour de la Fed. On a vu en fin de semaine dernière une probabilité qui a grimpé sur une nouvelle hausse de taux au mois de juin, alors que les marchés espéraient justement une pause. Pour le moment, ça n'a aucune incidence sur le marché action, qui a bien tenu, qui a progressé même la semaine dernière. Mais en tout cas, sur les taux, on a vu qu'il y a une nouvelle tension, notamment sur les taux longs, ou même sur les taux courts américains. On est revenu au contact des 3,65 sur le 10 ans américain. On pourrait aller tester 3,75. Ce serait le dernier niveau qui tiendrait avant 3,90. Donc attention à cette tension sur les taux qui peut finir par transpirer sur les marché action, avec justement ces anticipations qui sont passées 40% vendredi. On est revenu à 10% aujourd'hui sur les anticipations et probabilités de hausse de taux de la Fed au mois de juin. Mais du coup, c'est un enjeu qui sera important et qui va être surveillé aussi tout au long de la semaine avec des publications. On aura les minutes de la dernière réunion du FOMC, on aura l'indice PCE en fin de semaine et des speakers aussi de la Fed qui vont s'exprimer tout au long de la semaine et qui vont certainement avoir un impact justement sur la tendance du marché, et notamment sur la tendance sur les taux et sur les devises qui pour le moment sont les principaux impactés. Mais voilà, en tout cas sur les indices et sur les actions, c'est très calme ce matin avec, comme je l'ai dit, voilà, des niveaux de support qui peuvent tenir et qui ne viendront pas forcément remettre en cause la tendance de fond qui reste évidemment positive sur le CAC, mais même sur l'ensemble des indices européens et américains.
Merci beaucoup pour cette lecture graphique et technique de la séance du jour. C'est André Atouigny qui nous accompagnait depuis Saxo Bank. Le marché parisien, lui, est à 7481 points et il perd modestement 0,13%.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et on retrouve Frédéric Lorenzini pour le groupe FICAD. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci
Cédric.
Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un nouveau, le Lemanik European Dividend Preservation. De quoi s'agit-il?
C'est quoi ce Lemanik European Dividend Preservation? C'est pas vraiment un nouveau fonds, il a un peu plus de 2 ans, mais c'est un fonds qui est assez original. Alors, Lemanik, c'est une société de gestion suisse, hein, comme son nom le laisse entendre. European, c'est de l'action européenne. Et Dividend Preservation, c'est un fonds qui joue le dividende, il essaye pas de gagner sur la valorisation des titres. Il dit, on va aller sur les marchés actions, mais juste...
C'est du rendement.
Ouais, pour prendre le dividende. C'est ça le concept.
Et ça marche? C'est gagnant de jouer? C'est une stratégie gagnante de jouer le dividende?
Oui, c'est une stratégie gagnante de jouer le dividende. Vous savez, le dividende, année après année, c'est entre 2 et 5% de rendement. C'est très sensible. Si on prend, par exemple, le CAC 40 qu'on connaît, qui est à 7400 quelques points, c'est un indice hors dividende. Si je prends le même CAC 40 dividende réinvesti, il est à 22 300 points. Okay. C'est aussi la raison pour laquelle c'est pas pertinent de comparer le CAC 40 français hors dividende avec le DAX allemand qui est dividende.
C'est à 16 000 points, quelques
soit. Bah oui, parce que année après année, il progresse plus que le petit CAC 40 français qui lui est hors dividende. Et en fait, c'est ça le principe de ce Lemanik European Dividend Preservation, c'est d'aller chercher des valeurs européennes qui servent un bon dividende.
Mais comment fait-on? Parce que on rappelle, quand le dividende est détaché, il impacte du même montant le cours de l'action concernée. Donc comment fait-on pour prendre le dividende sans se prendre dans les dents en plus voilà, la baisse du cours?
Alors c'est un peu technique. Alors vous avez raison, quand le dividende est servi, ça impacte le cours de l'action, et puis le cours de l'action, lui, il est volatile. C'est un petit peu technique. En fait, j'achète des actions et je neutralise le cours de bourse avec un certain nombre de produits dérivés.
Et l'ingénierie,
voilà. Et je ne garde que le dividende. C'est un fonds qui ambitionne de servir entre 3 et 4% par an avec une faible volatilité. Et c'est ça qui est intéressant.
Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve du coup dans ce portefeuille?
Écoutez, on a un portefeuille relativement resserré. Grosso modo, on a une vingtaine de lignes. Hein. Des valeurs européennes qui sont connues, Stellantis, Vinci, LVMH, Roche, Engie, Zurich Insurance. Les 10 premières lignes représentent à peu près 70% des encours. Donc vous voyez, un portefeuille resserré, c'est assez typique de ce qu'on appelle une gestion de conviction. Et puis comme c'est un petit peu technique, l'équipe peut pas non plus multiplier indéfiniment les lignes. Il faut aller vraiment sur les convictions les plus fortes. Ça va pas tout azimut.
Et côté performance, ça fonctionne ou pas? Ça donne
côté performance, ça tient la route. Sur 2 ans, on est à peu près à 2%. En tenant compte de frais de surperformance qui sont à hauteur de 15% de la surperformance du fonds avec un high watermark. C'est-à-dire que si le fonds sous-performe et qu'après il rebondit, on va pas vous prendre des frais de surperformance parce qu'il revient à son état initial.
Bon, ben voilà, ça vaut le coup donc d'y aller
Écoutez, c'est un fonds, moi j'ai trouvé que c'est un fonds qui mérite qu'on s'y intéresse. Alors attention, ça reste de la gestion action, c'est pas un fonds garanti, c'est pas un fonds en euros, c'est éligible au PEA, ça va dans certains contrats d'assurance vie, c'est un véhicule par les temps qui courent qui a le mérite d'exister.
Lemanik European Dividend Preservation, présenté ce matin par Frédéric Lorenzini. Merci Fred.
À bientôt.
À la prochaine. Le CAC 40, -0,13, 7481 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Chaque jour, vos questions trouvent leurs réponses. N'hésitez pas à nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et ce matin, c'est Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu qui nous rejoint en studio. Rebonjour Christian.
Bonjour à tous.
Vous êtes prêts?
On y va.
Allez, on démarre avec cette question de Jacques. Sa femme est décédée et il a constaté que la banque avait prélevé 4 857 euros de prélèvements sociaux sur son PEA. Et Jacques s'interroge, est-ce normal?
Alors, c'est pas surprenant en tout cas. Effectivement, en cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en action, il y a quand même quelques 5 millions en France, le plan est automatiquement clôturé et la banque prélève les prélèvements sociaux sur les gains au sein du PEA. Donc, prélèvements sociaux calculés à un taux en fonction, ce qu'on appelle un taux historique, c'est-à-dire en fonction de la date de réalisation du gain, et à 17,2% pour les gains engrangés depuis le 1er janvier 2018. suite. Donc, a priori, sous réserve d'une vérification du dit montant, mais cela pourrait être normal, la bonne nouvelle, entre guillemets, pour Jacques, c'est que ce montant doit être absolument indiqué à son notaire et il viendra augmenter le passif successoral. Donc, ça viendra en déduction de l'actif et donc, comme ça, ça évitera de payer des droits de succession sur ce montant. C'est vrai que
on va dire tout de suite à Jacques que il va être obligé de faire confiance, hein, parce que calculer lui-même, c'est niet.
Oui, c'est quasiment impossible. Enfin, il faudrait avoir une mentalité d'archiviste et une documentation bien renseignée, puisque pour calculer lui-même ce montant des prélèvements sociaux, il faudrait connaître la date de tous les versements, la date du PEA à chaque date de changement, donc à l'heure du taux de la CSG. En fait, donc, bon, en pratique, c'est quasiment impossible de calculer ce taux de prélèvement.
Donc, il est obligé de faire soi-même. Confiance là-dessus.
Voilà, il est obligé de faire le moment là-dessus. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'en tout cas, le PEA de sa femme était manifestement en gain. Ou en tout cas, ça, si ce n'était pas le cas, il y a un souci pour savoir si le PEA était en gain ou pas. Généralement, c'est une information qui se trouve sur les sites internet des banques. En tout cas, c'est très simple. Il suffit de calculer la valeur du PEA le jour du décès par rapport au montant total des versements. Généralement, on a donc ces deux informations.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre malgré tout quand il y a un décès d'un titulaire de PEA?
Alors, c'est vrai que dans le cadre de décès, ben, on pense rarement à s'attarder un tout petit peu sur les placements détenus par le défunt. Or, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent à gagner ou à perdre, à s'intéresser ou en tout cas à se plonger un tout petit peu dans les placements du défunt. Donc, le PEA et le compte-titres, c'est des vrais sujets. En le cadre du PEA, il y a un vrai sujet fiscal. Hein, parce que la question, normalement, c'est la valeur du PEA le jour du décès qui rentre dans l'actif successoral et qui sera soumis au droit de succession à taux progressif. Mais si c'est plus intéressant pour vous, vous pouvez demander à la banque de calculer la moyenne des 30 derniers cours de bourse qui précèdent le décès et faire ce petit calcul pour chaque titre du PEA.
Donc
on compare ligne par ligne. Le cours le jour du décès et la moyenne des 30 derniers cours, et ensuite vous pouvez choisir l'option qui est la plus intéressante.
Mais pour l'ensemble ou ligne par ligne?
Vous pouvez choisir ligne par ligne l'option qui est la plus intéressante pour vous. Alors avec un PEA à 5 000 euros ou à 10 000 euros, ouais, la différence sera
pas au bout, mais...
si vous faites partie ou si votre épouse, en tout cas l'épouse de Jacques, avait un PEA d'un montant en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers, voire en millions d'euros, il y en a peu, mais il y en a, la différence peut être substantielle. Donc, il y a un sujet décès du titulaire d'un PEA, il y a un sujet droit de succession.
Sur la valorisation.
Sur la valorisation. Il y a aussi un petit sujet, si jamais, ça entraîne souvent beaucoup de questions, si le PEA, la valeur du PEA progresse ou baisse entre le jour du décès et le jour du partage, il peut y avoir, de la part des héritiers, un complément d'impôt à payer. S'il y a plus-value et s'il y a moins-value, les héritiers profiteront d'une moins-value en report d'imposition qu'ils pourront reporter sur les gains réalisés par ailleurs. Premier sujet, un sujet fiscal. En cas de le jour du décès d'un titulaire de PEA. Le deuxième sujet, c'est un sujet frais bancaires. Le PEA est automatiquement clôturé et vous savez que depuis quelques années maintenant, les frais bancaires sur le PEA sont plafonnés. Bon. Donc les frais de clôture sont plafonnés à 150 euros. Par contre, ce qu'on ne dit jamais, c'est que si les héritiers décident de vendre des titres, bon ben là, il y aura bien sûr des frais de courtage. Bon, faut les regarder un petit peu plus en détail. Et si les héritiers décident de transférer les titres, ben là, décide le transfert des titres du compte-titre provisoire, donc de la personne décédée, vers leur compte-titre à eux. Et dans ces cas-là, il peut y avoir des frais de transfert. Donc là aussi, avec un pourcentage, avec des minimums par ligne, il faut se renseigner. Il faut se renseigner notamment pour les petits transferts, paradoxalement, pas pour les gros montants, mais pour les petits transferts, parce que là, si vous transférez un titre à l'héritier A, un titre à l'héritier B, dans certains cas, malheureusement, les frais de transfert peuvent dépasser la valeur du titre transféré. Donc, c'est un point à regarder. Voilà, c'est en cas de succession, en cas de transmission, c'est un sujet à regarder, le traitement du PEA.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend de l'âge presque, il faudrait solder son PEA?
Ça veut dire que le PEA est la meilleure enveloppe fiscale aujourd'hui pour investir en bourse. Ça veut dire que... Si vous détenez un PEA, au bout de 5 ans, vous ne payez pas d'impôts. Bon, sur vos gains.
Plus on prend
de
l'âge.
Mais ça veut dire aussi que le seul inconvénient du PEA, peu ou prou, c'est que vous passez par la case prélèvements sociaux en cas de décès, ce qui n'est pas le cas pour un compte titre ordinaire. Donc oui, pour poursuivre votre raisonnement, ça veut dire que lorsqu'on prend de l'âge, il n'est pas forcément inintéressant de s'interroger sur est-ce qu'il ne conviendrait pas de clôturer le PEA et de transférer éventuellement les titres sur un compte titre ordinaire, où là, à condition de ne pas encaisser trop de dividendes, parce que les dividendes vont être imposés chaque année, tandis qu'ils ne le seraient pas dans le cadre du PEA. Et dans ces cas-là, l'avantage de la manœuvre, c'est que si vous ne vendez pas vos titres, que vous les conservez 5, 10, 15, 20 ans, le jour du décès, le décès va éponger sur le plan fiscal la plus-value. Donc, il n'y aura pas un euro d'impôt à payer sur la plus-value et pas non plus un euro de prélèvements sociaux à payer sur la plus-value. Bien sûr, le montant du compte titre ordinaire rentrera dans la base taxable soumise aux droits de succession à taux progressif, mais effectivement, comme c'est le cas pour le PEA, tout à fait.
Voilà donc, Jacques, quelques idées à bien avoir en tête. Et donc, effectivement, ces prélèvements sociaux sont normaux et on vous, hélas, recommande de faire confiance au calcul de la banque, sauf à ce que vous avez dit quoi? Une mentalité d'archiviste particulièrement tatillon et que vous ayez consigné tout ça jour après jour. Bon, question de Laurent. Il va s'agrandir et il envisage de débloquer l'argent de son PEE et il se demande quand il doit effectuer le retrait.
Alors, plan d'épargne entreprise, donc la bonne nouvelle pour Laurent, c'est qu'effectivement, l'acquisition de la résidence principale, c'est un cas de déblocage anticipé de l'argent donc qui a été placé et épargné au sein de son entreprise, généralement alimenté automatiquement par l'argent de l'investisseur, par de la participation et de l'intéressement. De mémoire aussi, il en va de même pour la rénovation et pour l'achat donc alors d'une résidence neuve. Quand débloquer, il peut débloquer soit au moment de la signature de la promesse de vente, soit au moment de la signature de l'acte définitif. Le Conseil du revenu, c'est débloquer le plus tard possible, puisque comme ça, il optimisera le montant de la somme qui figurera sur son PEA. Notamment, il doit attendre le versement, et c'est d'époque, si j'oserais dire, le versement de l'intéressement et de la participation de l'année précédente. Et il faut savoir que les entreprises, pour celles qui ont un exercice clos le 31 décembre, ont jusqu'au 31 mai pour verser cet intéressement et cette participation. Donc, s'il peut attendre quelques jours. Il faut savoir que pour chaque motif de déblocage, vous ne pouvez retirer de l'argent qu'une fois du PEE. Donc, attention à un petit piège. Ne retirez pas, par exemple, 10 000 euros pour l'acquisition de votre logement au moment de la signature de la promesse de vente. Vous ne pourrez pas retirer une autre somme pour ce même motif au moment de la signature de l'acte définitif. On peut retirer une seule fois pour un motif donné.
Voilà, Laurent, donc, quelques bons conseils. Et puis après, vous stationnez l'argent sur votre compte s'il faut attendre un petit peu.
Oui, généralement, il faut mieux prendre ces précautions. Donc, alors, avec le temps que vous ayez transmis l'ensemble des pièces ad hoc au gestionnaire de votre épargne salariale et le temps que les fonds soient transférés sur votre compte courant, ça peut prendre un peu de temps. Donc, il ne faut pas hésiter à anticiper. Les services juridiques des gestionnaires de patrimoine d'épargne salariale sont assez tatillons sur les documents à produire. Donc, il faut bien se renseigner. Il ne faut pas s'en prendre au dernier moment. Vous avez entièrement raison.
Donc, quand devez-vous effectuer le retrait? Avec un petit peu d'avance, avec un petit peu de délai. Dominique veut savoir ce que vous pensez des SCPI dans un contrat d'assurance vie. Il nous dit, par rapport notamment à la détention en direct.
Alors,
les SCPI font partie des unités de compte.
Voilà, alors les deux avantages, c'est que l'assureur vous garantit la liquidité des parts des SCPI, donc ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une détention classique en direct, où vous pouvez rester collé avec votre papier. Le deuxième avantage, c'est non des moindres, et c'est le principal avantage, c'est que vous profitez de la fiscalité de l'assurance vie, donc là, peu ou prou, si vous vous débrouillez bien, ça signifie 0,1 impôt sur les gains retirés de vos SCPI, les fameux qu'on appelle les dividendes, même s'il s'agit en fait de loyers. Vous ne paierait que, donc, entre guillemets, 17,2% de prélèvements sociaux, tandis que je rappelle, hein, en cas de détention, la fiscalité des dividendes versés par les SCPI en cas de détention directe, mais c'est votre taux marginal d'imposition, on va faire simple, 30% à minima pour un cadre, plus donc, alors, les 17,2% de prélèvements sociaux, donc on monte à 50% contre 17,2% dans le cadre de l'assurance vie. Les inconvénients, ben, c'est que vous rajoutez un niveau de frais, c'est peu ou prou 1%, et puis c'est un peu la contrepartie de la liquidité qui est des SCPI assurée par les compagnies, et ben, généralement, elles ne vous reversent que 85-90% du montant des loyers. Donc, est-ce que c'est un bon plan ou pas un bon plan
de détenir ? Il y a quand même aussi qu'on ne peut pas choisir toutes les SCPI dans son contrat d'assurance vie.
Ça, c'est autre
on
chose.
On n'a le choix que de celles qui sont sélectionnées par son assureur.
Que celles qui seront effectivement référencées. Alors après ça, si vous êtes un nouveau investisseur, je dirais, vous pouvez choisir un contrat d'assurance vie qui référence une SCPI qui vous intéresse. Mais vous avez entièrement raison. En cas d'investissement en direct, vous avez accès à toutes les SCPI du marché, une centaine de SCPI. Et tandis que si vous investissez via un contrat assurance vie, vous n'avez accès qu'aux SCPI, donc aussi à d'autres véhicules investis en pierre papier, référencés par votre contrat. Voilà. Donc, in fine, en fait, la meilleure solution, bah, tout dépend un peu de vos objectifs. Si vous êtes en phase de constitution d'un patrimoine, bah, le Conseil du Revenu, c'est plutôt, Dominique, de privilégier l'investissement en direct, puisque vous pouvez faire comme ça, acquérir à crédit vos parts de SCPI, même si, je dirais, avec des taux aujourd'hui pour les crédits immobiliers autour de 4%,
ouais. C'est pas forcément moins intéressant.
C'est pas forcément le bon plan du moment. Et sinon, mais si vous êtes plutôt dans une optique pour disposer de revenus complémentaires peu fiscalisés, ben faites l'acquisition de vos parts de SCPI au sein de votre contrat d'assurance vie. Alors, ce qu'on dit peu, c'est que interrogez quand même votre interlocuteur pour savoir ce que deviennent les dividendes qui sont versés par la SCPI. Est-ce qu'ils sont versés sur le fonds en euros, ce qui est généralement le cas, ou est-ce qu'ils sont réinvestis en parts de SCPI ? Voilà, c'est il y a deux...
Ça, c'est la question des dividendes.
Deux modalités, voilà, la question des dividendes, et vous pouvez aussi interroger votre interlocuteur sur ce qu'on appelle le délai de jouissance, et au bout de combien de temps donc, alors, les SCPI vont vous verser des dividendes, il faut le
temps
généralement.
Et ça, c'est que ce soit en direct ou via l'assurance.
Alors, généralement, de mémoire, il peut y avoir des délais de jouissance plus courts, il me semble, donc dans le cadre d'un investissement via un contrat d'assurance vie, à vérifier auprès de votre assureur et en fonction du contrat que vous avez choisi.
En allant un tout petit peu plus loin, Dominique a raison, encore aujourd'hui, de faire de la SCPI ? Vous restez confiant là-dessus, au revenu ?
Dominique, on reste confiant sur la pierre papier. Maintenant, il y a toute une panoplie de supports d'investissement possibles. Les SCPI, c'est un support d'investissement. Vous avez les OPCI, vous avez les SCI, vous avez vous avez également les foncières cotées en bourse. C'est vrai que dans la conjoncture actuelle, les foncières cotées en bourse sont particulièrement massacrées, comme c'est toujours le cas en période de hausse de taux d'intérêt. Ça ne vous a pas échappé, vous en parlez quasiment tous les jours sur votre antenne, voire tous les jours sur votre antenne. Les taux pourraient se stabiliser aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et donc voire commencer à rebaisser vers la fin de l'année. Donc c'est vrai que cette classe d'actifs, les Klépierre, les Gecina, les Unibail-Rodamco, ont été particulièrement matraqués. C'est peut-être donc, le moment de commencer à prendre un petit ticket dans une optique de long terme. Attention, c'est de la bourse, tandis que les SCPI, c'est davantage un produit de rente, un produit de revenu, mais il nous semble en tout cas en termes de valorisation du support d'investissement qu'il y a peut-être plus de potentiel à regarder de ce côté-là, quoique, et en tout cas ça ne s'adresse pas non plus aux produits boursiers aux mêmes personne. Mais oui, il demeure du potentiel.
Allez, dernière question. Il nous reste 3 minutes pour répondre à Pascal, qui vient de recevoir pour son anniversaire un chèque de 1 500 euros de la part de ses parents, et elle se demande si elle doit le déclarer.
Alors, a priori, on va répondre, je vais répondre directement et ensuite on va prendre un petit peu de hauteur. A priori, non. En plus, Pascal parle de ses deux parents, donc on peut partir du principe que c'est 750 euros pour chaque parent. Alors, il faut savoir que sa question est intéressante parce que l'administration fiscale a toujours refusé de répondre à ce type de questions, en tout cas, réponse de façon générale. En fin de compte, ce que les fiscalistes appellent le présent d'usage n'est pas imposé, bon. Ni soumis aux impôts, ni aux prélèvements sociaux. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun les cadeaux que vous pouvez faire à vos proches. Il y a deux conditions qui doivent être remplies. D'abord, ce chèque doit être fait à une occasion particulière. Noël, un anniversaire, une réussite aux examens.
Donc bon. Là, ça rentre, c'est anniversaire.
Voilà, là, ça rentre. La deuxième chose, il faut que cette somme n'appauvrisse pas La personne qui donne. Bon. On peut considérer que c'est 750 euros pour chaque parent, sauf si les parents de Pascal sont particulièrement démunis. On peut considérer que ça les appauvrira pas et donc il n'y a pas d'imposition. Au-delà, si c'était le prix d'une voiture, voire a fortiori d'un appartement. Donc là, effectivement, il faut passer par la case don manuel ou donation classique. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer forcément par la case impôt, puisque, et ça il faut le répéter, il y a des abattements légaux qui permettent à chaque parent de donner 100 000 euros à chaque enfant tous les 15 ans.
Bon, mais ça veut dire en gros que quelqu'un de très fortuné va pouvoir donner à une occasion particulière, vous l'avez rappelé, une somme plus importante et que quelqu'un qui sera moins fortuné. Une voiture plus rutilante.
Sans aller jusqu'à une voiture, mais peut donner 1000, 2000, 3000 euros à l'anniversaire, plus à Noël, sans pour autant que les fourches codines du fisc, voilà, que le fisc lui tombe dessus.
Pour être très formel, il faut garder un peu la trace, justement, de l'anniversaire, c'est simple, c'est la date, mais...
Anniversaire à Noël, c'est simple. Éventuellement, il y a relativement peu... il faut être clair, hein, relativement peu de questions donc, de l'administration fiscale sur un sujet pareil. Maintenant, si vous êtes un tout petit peu à la limite, si vous pensez être un tout petit peu à la limite, si votre patrimoine se compte en millions d'euros, voire en dizaines de millions d'euros, et que vous allez jusqu'à offrir une voiture à un proche, à un enfant, dans ces cas-là, il faut peut-être mieux, effectivement, s'adjoindre les services d'un avocat fiscaliste pour s'assurer que vous êtes dans les clous. Par rapport au montant de votre cadeau, et en tout cas, sur le plan fiscal, que vous risquez qui est pas donc que ce présent d'usage soit requalifié en donation.
Merci beaucoup Christian.
Merci à vous.
Et la rédaction du Revenu qui répondait à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. À très vite Christian. Le marché parisien, il reste pour le moment en petite baisse. Dans un instant, c'est 90 minutes business. Et Sandra Gandoin.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire du jour.
On va parler de la loi de programmation militaire qui arrive aujourd'hui en débat à l'Assemblée nationale. On va parler des patrons qui sont reçus à Matignon. Hein, beaucoup, beaucoup de choses à dire à Matignon. Et puis, vous savez que c'est une équipe française qui a gagné le tournoi, le Major de Counter-Strike ce week-end à Paris. C'est du e-sport, Cédric. Vous savez que le e-sport sera présent au JO dans un peu plus d'un an. Eh bien, les Français se défendent vachement bien. Et on va recevoir l'un des team managers de Vitality, l'équipe qui a gagné, dans un quart d'heure. Ce sera à suivre.
Musclé des pouces, c'est ça?
Exactement, et pas que, il faut être très bon entrepreneur aussi.
C'est à suivre dans un instant. Le CAC lui perd 0,14%, 7481 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.